Bonjour, c'est toujours une joie de se retrouver ensemble pour partager, raconter, dire ce que le Seigneur est pour nous, ce qu'il a fait pour nous, et surtout témoigner de son amour parce qu'il nous a aimés le premier. Personnellement, je l'ai cherché et il... je l'ai cherché et il m'a trouvé. Voilà, donc c'est plus juste. Je croyais l'avoir trouvé dans une religion. Pierre l'a bien souligné, une fausse religion, malheureusement. Je baignais dedans, j'ai grandi dedans et j'ai jamais connu la joie, j'ai jamais connu ce que c'est l'amour, ce que c'est l'affection, ce que c'est avoir un sentiment envers l'autre, où j'ai jamais tout simplement reçu quoi que ce soit, ni même au sein de la famille ou à l'extérieur. Et Dieu, on le voyait comme étant quelqu'un qui nous attendait pour nous punir, parce qu'on est mauvais, on est pécheurs, et nous jeter au feu. La seule promesse qu'il y a dans l'islam, il faut le savoir, c'est que pour les hommes, malheureusement, on est désolé pour les femmes, c'est juste quand on meurt en martyr, en tant que djihadiste, et là on a la promesse des 70 femmes au paradis. Donc ça c'est que pour les hommes. Et les femmes, elles auront la chance de faire partie des 70, malheureusement. C'était une réponse d'un imam à qui on a posé cette question. On lui a dit, mais c'est quoi la récompense pour les femmes? Et il leur a dit, voilà, estimez-vous heureuses, hein, vous ferez partie des 70 femmes vierges et qui redeviennent vierges à chaque fois. Donc voilà. Malheureusement, donc il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de salut, tout simplement. Donc même si on applique à la lettre l'islam, le Coran, et on a toujours cette peur de Dieu parce qu'il y a la punition qui nous attend. On n'est pas sauvé, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on voit les musulmans toujours tristes, toujours malheureux, toujours... on avait toujours peur de mourir. Passer devant un cimetière en plein jour, je me rappelle, je récitais des versets coraniques parce que je passais devant un cimetière. Donc on a peur. Et je savais pas que c'était là que le Seigneur m'avait donné un rendez-vous. C'était dans un cimetière. Je vais développer ça. Hier, ça m'a fait un effet un peu particulier quand on a été à la promenade des Anglais pour inviter des gens pour témoigner. Et là, je me suis rappelé de ce qui s'est passé. Ça m'a fait un effet... j'étais triste, très triste, que des innocents sont morts et au nom d'une religion, au nom de Dieu, parce que la personne qui a fait ça, il avait des convictions. Il avait des convictions et il savait pourquoi il avait fait ça. On a beau dire des choses, expliquer, bon, c'est un marginal, c'est quelqu'un qui de désespéré, c'est quelqu'un, ceci, cela, mais nous qui connaissons cet arrière-plan, malheureusement, on sait qu'est-ce qui motive ces gens à faire ce genre d'action. Voilà, donc je m'appelle Karim et marié à Karine. On l'a pas fait exprès. Et le jour où on s'est rencontrés, en discutant, et puis je lui ai dit, parle-moi un peu de tes parents et tout ça. Elle m'a dit, oui, mon père, il a fait la guerre d'Algérie. Ah bon? J'ai dit, mon grand-père a été tué par l'armée française, donc ça peut être ton père. Et puis on s'est dit, tiens, puisque le Seigneur a permis qu'on se rencontre, là on va réconcilier les deux pays. Et puis oubliant, mettant de côté l'histoire, effectivement j'ai grandi dans la haine du français, parce que c'était le colonisateur, on nous enseignait ça à l'école, j'ai fait l'école algérienne, et le français c'était le pire ennemi. C'était quelqu'un qui, vous savez, durant cette guerre qui a duré 7 ans et demi, il y avait plus d'1 million de morts. Bon, quand on parle d'une guerre, il y a des problèmes des deux côtés, et voilà, on peut pas blâmer un côté et pas l'autre. C'est l'histoire, c'est la guerre, c'était comme ça. Mais comme ma famille, mon père a perdu son père, donc il avait 5 ans, et il a grandi sans son père, avec tous les problèmes qu'il y avait derrière. C'était juste la fin de la guerre, et puis il y avait une pauvreté, il y avait rien pour justement refaire ou continuer sa vie. Donc il y avait sa mère qui était déjà pauvre. Et donc quand je suis né, mon père était mineur, il n'avait pas encore l'âge de m'inscrire à l'état civil, parce que le mariage s'était fait que à la mosquée, pas à la mairie. Donc je suis né et on fait quoi? Le mariage n'est même pas reconnu civilement, donc ils ont attendu un an pour m'inscrire avec ma deuxième sœur qui est née en tant que jumeau. Donc alors que j'avais déjà un an. Et là, ma grand-mère, vous connaissez le mauvais œil, hein, donc la main de Fatma et tout ça pour protéger, surtout par le mauvais œil, la mort s'attaque au premier-né et au garçon. Donc ma grand-mère qui avait peur justement que je meure par ce mauvais œil, elle m'a caché pendant 5 ans et elle disait que j'étais une fille. Et elle m'a percé l'oreille droite. J'ai jamais mis de boucle d'oreille, mais c'était pour me déclarer comme esclave, parce que tout simplement la mort ne s'intéresse pas aux esclaves et ne s'intéresse pas aux filles. Elle s'intéresse qu'aux garçons. Donc tout ça, on s'est inspiré de ça, de la religion, hein, donc de l'islam. Vous savez, dans l'islam, la femme est l'éternelle mineure, elle n'est jamais majeure. Donc la femme est, c'est pas une personne complète, contrairement à l'homme. L'homme est complet, 100%, mais la femme, elle est que 50% par rapport à l'homme. Par exemple, un témoignage d'un homme peut passer, mais un témoignage d'une femme ne passe pas. Il faut 2 femmes pour que le témoignage soit validé. Donc juste pour que vous ayez une idée. Donc la mort ne peut pas s'intéresser à une demi-personne, hein, à la fille. Donc voilà. Et elle m'a caché pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, il faut bien que j'aille à l'école. Et là, les voisins, tous les autres découvrent qu'il y a un garçon, mais il sort d'où, on ne sait pas à qui il appartient. C'était une fille, et pourtant. Et après, vous imaginez tous les problèmes que ça pouvait engendrer en moi, la frustration, la peur des autres enfants et tout ça. J'ai souffert, mais je ne savais pas que le Seigneur allait me donner un rendez-vous dans ce lieu, dans ce lieu de mort, dans ce cimetière, pour justement me dire « Je suis ton père, un père qui t'aime. » Je vais juste vous dire ceci. Grâce, qui avait 8 ans, elle a 9 ans, quand elle avait 8 ans, je lui ai dit « Grâce, on va sur Paris. » Elle me dit « Non, j'ai pas envie. » Je dis « Pourquoi ?»« Parce qu'il y a des attentats à Paris. » Vous voyez, ça m'a fait mal, au point où un petit enfant, vous savez, ça part, là, on n'a pas voulu dire à la maison, même quand on parle avec mon épouse, on se disait les choses en cachette des enfants, mais ils entendent ça à l'école, avec les autres enfants. Donc, et puis on s'est dit, tiens, allez, on va parler. Donc on a commencé à parler. Mes enfants, les deux grandes, savent ce que c'est l'islam aujourd'hui. Parce qu'elles ont des copines musulmanes. J'ai pas envie qu'il y ait d'influence. J'ai pas envie qu'elles se posent des questions et qu'elles puissent avoir des réponses ailleurs. J'ai envie qu'elles les aient à la maison. Donc, on a commencé à répondre à leurs questions. Aujourd'hui, si quelqu'un pose la question à ma fille ou à mes deux filles, c'est quoi l'islam? Elles savent ce que c'est. Donc, c'était juste une parenthèse. Voilà, donc du cimetière à la vie, c'est le titre que j'ai donné à mon témoignage, à ce DVD que j'ai mis là-bas. Donc le pasteur a dit que vous pouvez le prendre, et puis si vous voulez faire un don, ça c'est selon ce que vous ressentez, il n'y a pas de problème, on sert le Seigneur à plein temps, et on est porté par des chrétiens, par les frères et sœurs, on vit par la foi. Et tout simplement, on sert le Seigneur parce qu'il nous a servi le premier. Par amour, nous avons pris cette décision de le servir aussi. Tout a commencé dans une cour du lycée, dans la cour du lycée. Et là, voilà, donc tous les chemins mènent à Rome, mais pas à Dieu. Hein. Il y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc j'ai été choqué pour la première fois quand j'ai vu mon meilleur ami me dire « je suis chrétien ». C'était un choc pour moi. J'allais lui dire comme Jésus avait dit à Pierre « arrière de moi Satan ». Je l'ai traité de tous les noms, je lui ai dit « mais n'arrête pas de m'influencer ». On t'a fait un lavage de cerveau, laisse-moi tranquille. Bon, on peut continuer à être amis, mais pas plus. Et là, il me racontait des paraboles, Jésus est venu et tout ça. Et le deuxième choc qui est venu, c'était quand il m'a dit Christ est mort à la croix. Je lui dis, mais c'est pas vrai. L'islam, notre religion, n'a jamais dit ça. C'est un homme qui est mort à sa place. Il me dit, mais réfléchis. Jésus a besoin que quelqu'un, qu'un homme meure à sa place. C'est plutôt le contraire. Vous voyez ce que la religion a fait? Et aujourd'hui, beaucoup ne pensent pas à ça, même les chrétiens. Et c'est ça que la religion est venue dire. Jésus avait besoin qu'un homme meure à sa place pour qu'il soit enlevé au ciel. C'est pas vrai. Jésus est mort à la croix. Et c'est ça que nie la religion. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit justement à Pierre, « arrière de moi, Satan », parce que Pierre a dit, « non, tu vas pas mourir à la croix ». Donc essayons de faire un peu le lien. Je vous laisse avec ça. Et donc, j'écoutais pas mon ami, j'étais déçu de le voir comme ça. Et puis, il m'a dit, en tout cas, si tu veux, je t'invite dans notre réunion. Je lui ai dit, mais ça m'intéresse pas, ta réunion, je vais faire quoi? Il m'a dit, dans notre réunion, on se réunit, on prie. J'ai dit, tu n'es pas le seul chrétien alors? Il m'a dit, non, je suis pas le seul chrétien. Je lui ai dit, vous priez où et comment? Je lui ai dit, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de... Parce que pour nous, et pour tout musulman d'ailleurs, la majorité, être chrétien, c'est être catholique, c'est ces grands bâtiments qu'on voit avec des grandes croix, ces statues à l'intérieur et tout ça. C'est ça, être chrétien. Je lui ai dit, mais on n'a que des mosquées ici. Il m'a dit, non, on n'a pas besoin d'un bâtiment pour prier Dieu. Dieu, on peut le prier dans n'importe quel endroit. Il nous entend et il répond à nos prières. Je lui ai dit, ben, c'est intéressant ce que tu me dis. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir assister à votre réunion de prière? Mais sans devenir chrétien. Et je lui ai même dit, je ne deviendrai jamais chrétien. Voilà. Donc, c'était ce sentiment de curiosité, et j'ai été avec lui, juste pour savoir comment ces nouveaux chrétiens prient. Bien sûr, hein, j'avais peur d'être influencé. Je ne voulais pas changer de religion. De quoi a peur un musulman? C'est de changer une religion par une autre, de changer sa religion par le christianisme. Donc, pour lui, c'est pas intéressant. Il a raison. Quelque part, quand nous témoignons à un musulman, on lui présente pas une nouvelle religion. On lui dit pas, viens, convertis-toi au christianisme. Non, c'est pas ça. Nous devons expliquer qu'il s'agit bien d'une relation avec Dieu et ce qui n'existe pas dans sa religion. Et là, il va voir que c'est quelque chose de nouveau. Même s'il prie, il fait le ramadan, il va à la Mecque, il fait tout ce qu'il y a dans l'islam, mais il n'y a pas cette relation, cette connaissance personnelle avec Dieu. Et c'est ça que nous voulons, que nous devons leur expliquer, leur dire, voilà, nous vous présentons le chemin, mais pas une nouvelle religion. Donc, voilà, mon ami m'a invité et c'est dans ce cimetière, donc c'est les photos du cimetière où j'ai adressé ma première prière à un Dieu vivant. C'est dans ce lieu de mort que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et il m'a invité, donc il m'a donné rendez-vous, il m'a dit on y va. Bon, on est allé. Et quand on a beaucoup marché, c'était la nuit, on est arrivé devant ce grand mur, il m'a dit voilà, je monte et je passe de l'autre côté, tu fais pareil. Et avant de monter, il a regardé à gauche, à droite, derrière, devant, il n'y avait personne. Je monte et là je découvre un cimetière. Je fais quoi? Je continue, je fais demi-tour, je commençais déjà à trembler, j'avais peur. Le jour, j'avais peur de passer devant le cimetière, alors là, je vais me retrouver dedans, la nuit, avec des chrétiens. C'était compliqué, ça m'a fait un effet un peu... Et bon, j'avais 17 ans, je me disais quand même, bon, c'est pas grave, je continue, hein, je suis un homme. Et là, je vois tout un groupe de jeunes, ils étaient déjà là, mais tous souriants, contents de me voir, et ils m'ont bien accueilli. Je commençais déjà à voir la différence. Eux, ils étaient tranquilles, calmes, paisibles, mais pas moi. Donc là, j'ai déjà remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'est pas... J'étais pas comme eux. Et ils m'ont demandé de prendre place. Donc, il y avait une tombe vide, hein, il fallait s'asseoir dessus. Et là... Bon, j'ai pris place et le responsable du groupe qui avait à peine 6 mois de conversion, hein, ils étaient tous des nouveaux convertis, et il a pris la parole, bon, il m'a accueilli, tout ça, et il a dit on va prier. Ah, j'ai dit c'est ça que je suis venu voir. Et je les ai vus tous fermer les yeux et baisser la tête dans un cimetière la nuit. C'est pas facile. Je leur ai dit désolé, je peux pas faire comme vous, hein. Je peux vous entendre prier, mais eux ils priaient, moi je regardais derrière, à gauche à droite s'il n'y a pas une main qui sort, hein, on ne sait jamais, vous voyez. Donc. Par contre, quand un a commencé à prier, il a tout simplement appelé Dieu, son Père. Et là, j'ai senti le doigt de Dieu sur mon cœur, me disant, je suis ton Père. Il a continué à prier en remerciant Dieu pour son amour. Et là, j'ai senti que Dieu me disait, je t'aime. Je suis un Père qui t'aime. Et Ils ont continué dans leur prière, j'entendais rien, je suis resté sur ces deux mots qui m'ont transpercé le cœur à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et je me disais, mais je connaissais pas tout ça dans la religion et, vous savez, le mot amour n'existe pas dans l'islam et le mot Père, Dieu, Père n'existe pas, Dieu ne peut pas avoir d'enfant, Dieu n'est pas notre Père. On est des esclaves de Dieu sur terre. Et là, j'entends quelque chose de nouveau, et je préfère avoir Dieu comme un Père et un Père qui m'aime, que de l'avoir comme quelqu'un qui m'attend pour me punir. Et là, ça a fait donc la différence entre le Dieu que me présentait la religion et ce nouveau Dieu que je découvre. Et à la fin de la réunion, bien sûr, ils ont lu la Bible, ils ont chanté et tout ça. À la fin de la réunion, je leur ai dit, est-ce que je peux revenir la prochaine réunion? J'avais plus peur. Donc, ils m'ont dit, notre église est ouverte, tu peux revenir quand tu veux. Tu connais le chemin. Je sortais du lycée, direction cimetière. Et ils faisaient les réunions, au fait, chaque jour, hein, chaque soir. Pas une fois par semaine. Tous les soirs, ils se réunissaient dans le cimetière. Et c'est comme ça que j'ai raté mes études. Oui. Alors, le responsable du groupe, il nous a donné du travail et il nous a demandé de recopier à la main le Nouveau Testament. Et on obéissait, hein, on était tout feu tout flamme et on faisait tout ce qu'on nous demandait. J'ai donc recopié le Nouveau Testament, y compris en classe. Le prof parle et moi j'ai la Bible ouverte dans le casier, j'écrivais, le prof y parle et moi j'écrivais. C'est comme ça que j'ai perdu mes études. Je l'ai pas regretté, je vous assure. Je ne l'ai pas regretté. Et quand mon père avait su que je lisais la Bible, hein, parce que quand je suis revenu, parce que je me suis converti à 60 kilomètres de chez mes parents. Quand je suis allé chez mes parents, donc je leur ai dit, je suis chrétien. Mon père me regarde, ah bon, viens. Il a déjà entendu, hein, que son fils lit la Bible. Et il a commencé à me battre, à me menacer, à me dire, je t'emmène à la gendarmerie, ils vont te mettre en prison et je t'interdis de continuer la fréquentation de ces chrétiens. Il m'a enlevé la Bible, il a tout fait pour que j'abandonne la foi. Je lui ai dit, c'est pas possible, tu peux m'enlever la Bible, il a retrouvé tous les carnets que j'ai remplis en recopiant le Nouveau Testament, et je lui ai dit, tu peux tout m'enlever, mais ce qui s'est passé dans mon cœur, tu ne pourras jamais me l'enlever. C'est pour ça que, pour témoigner à un musulman, ce n'est pas uniquement intellectuel. Il ne faut pas juste prouver que Jésus est fils de Dieu ou Jésus est la vérité. Il ne s'agit pas que de ça. Ils ont besoin de cette touche de Dieu dans leur cœur, de cette révélation. Il faut que le Seigneur puisse donner quelque chose, une conviction intérieure. Il ne s'agit pas uniquement de répondre à leurs questions. Comment répondez-vous à cette question? Jésus est Dieu, la Bible le dit. Jésus est mort à la croix, la Bible le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est mort à la croix. Pensez-vous que Dieu peut mourir à la croix? Eh bien, c'est la question que nous posent les musulmans. Comment pourrait-on, humainement parlant, convaincre un musulman que, effectivement, Jésus est Dieu et Jésus est mort à la croix? Mais ça colle pas, humainement parlant, ça marche pas. Ils ont besoin de cette révélation. Donc, c'est pour ça que on doit toujours tenir compte de la prière. Quand on prie, le Saint-Esprit agit et il convainc. C'est ce qui s'est passé dans ce cimetière. Les chrétiens priaient. Et certainement qu'ils ont déjà prié avant que j'arrive. J'en suis sûr. Et le Seigneur a touché mon cœur. Donc, il y a malheureusement des chrétiens qui disent, mais ils sont durs, ces musulmans, ils sont difficiles, on peut pas les convertir. Mais bien sûr, c'est pas nous qui convertissons les gens. Donc, il faut laisser tomber ces préjugés. Et c'est le Seigneur qui touche. Nous, on sème. Et lui, il fait le reste. Tout simplement. On a peur de choquer, on a peur de... Mais il faut choquer, mon ami m'a choqué. Mon ami m'a dit, Jésus est mort à la croix, si tu viens pas à lui, tu es perdu. Il m'a choqué quand j'ai entendu toutes ces paroles. Et justement, c'est parce qu'il y avait ce choc que j'ai voulu comprendre plus. Voilà, donc il y avait de la persécution, j'ai connu la persécution, mais cette persécution a permis qu'il y ait une église dans ce village, dans mon village. Et je suis content aujourd'hui parce que les deux chrétiens qui se sont convertis juste après moi sont aujourd'hui pasteurs tous les deux. Un qui est pasteur à l'église du Tabernacle dans le 18e à Paris, et un autre qui est pasteur de l'église Kabyle, à Paris, à Pantin, dans le 93. Donc, vous les connaissez, Belkacem, peut-être. Il a travaillé parmi les Chinois. Un pasteur kabyle parmi les Chinois. Vous voyez un petit peu les... Mais le Seigneur a fait un travail merveilleux. Et dans mon village aujourd'hui, il y a des gens qui se sont convertis que je ne connais même pas. Dans ce village, j'étais le premier chrétien de là où je vivais avec mes parents. Et là, je ne connais pas le nombre des chrétiens qu'il y a dans ce village. C'est juste pour vous encourager. Semez en une personne. Ramenez une personne musulmane à Christ. Et ça y est, ne faites plus rien. Laissez-la. Vous savez, le téléphone arabe marche aussi. Donc, investissez dans une personne et vous allez voir après la suite. Voilà, je vais vous parler de mon ministère maintenant. Donc, j'ai connu le Seigneur m'a ramené en France, je voulais pas partir. Le Seigneur me dit, tu pars en France, mais j'ai ni famille ni amis, je vais faire quoi en France? Et il a mis sur mon chemin un homme que j'ai rencontré pour la première fois, il me dit, je t'envoie en France. Je dis, mais je vais faire quoi en France? J'ai pas les moyens en plus, je pouvais même pas me payer le billet et tout ça. Je dis, non, t'inquiète pas, je prends tout en charge. Il m'a dit, t'arrives à Marseille, il y a un homme qui va t'attendre, il t'accompagnera, il te montrera l'hôtel où tu seras hébergé. Il m'a dit, non, c'est payé à l'avance. Il me dit, je te donnerai même ton argent de poche. Je dis, j'ai pas mon passeport, il est périmé, il me faut 3 mois pour le refaire. Non, il me dit, 3 jours, tu as ton passeport tout neuf. Je dis, le visa, c'est difficile d'avoir le visa. Il me dit, je m'en occupe. Il répondait à toutes mes questions. Il me donnait des solutions à tous mes problèmes. Je dis, ok, je fais quoi pour refaire mon passeport? Il me dit, voilà, va à la préfecture. Tu vois telle personne, tu lui donnes les documents et il te refait ton passeport dans trois jours. Tu lui dis juste que tu le vois de ma part. Ok, j'ai mon passeport tout neuf. Il le prend, il va au consulat de France, il revient avec un visa. Il m'a dit, tu veux partir quelle date? Il faut bien que... J'ai donné une date et il va, il me ramène le billet et il m'achète un costume. Il me donne l'argent de poche, il me dit, le jour du départ, je t'attends, je t'emmène à l'aéroport. Je te dépose et tu pars. J'arrive à Marseille, il m'a pris en charge pendant 15 jours. Je passe les 15 jours à l'hôtel, et les 15 jours finis, l'argent que j'avais est fini. J'arrive, il me restait juste à peine de quoi aller prendre un billet pour Paris. Il faut quand même voir la Tour Eiffel. J'arrive en France, je vois pas la Tour Eiffel, c'est pas intéressant. J'arrive sur Paris et là, c'était le matin, je réfléchissais où je vais dormir la nuit. Le téléphone sonne, quelqu'un me dit, ah, j'ai entendu que tu es en France. J'ai dit oui, je suis à Paris. Il m'a dit, est-ce que tu as où aller? Donc il répondait avant même que je pose la question. J'ai dit non, je suis en train de réfléchir. Il m'a dit, reste où tu es, je t'envoie quelqu'un. Il envoie quelqu'un, il m'accompagne, j'arrive, il me donne les clés, il me dit, on te dépanne une semaine. Tu dors chez nous une semaine. Une semaine, c'est parti sur 3 ans. Je suis resté là 3 ans. Et c'est là que j'ai connu ma femme. Et c'est là que je me suis engagé à plein temps dans le ministère. Et c'est là que tout a démarré finalement. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans ce ministère, avec Agapé, par rapport à l'évangélisation des musulmans, en France, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. À l'étranger, on utilise les médias, donc le Seigneur nous a donné des moyens. On a des studios à Paris où on filme des témoignages, des tables rondes avec des pasteurs, des chrétiens d'origine musulmane, et on enregistre tout ça et on diffuse sur le satellite. Vous savez, on a, et Agapé, Life Agapé est implanté dans 30 pays à l'étranger. Donc on a des équipes qui sont aussi sur place dans les pays musulmans avec qui on travaille. Vas-y. Voilà, donc nous obéissons à ce verset, Matthieu 28:19, pour faire des disciples. Voilà, la fameuse parabole. Donc, est-ce que vous savez que le Seigneur est fidèle? Il continue de parler en parabole, il n'a pas changé. Voilà, donc les bâtiments, c'est souvent qu'on voit ça hein, dans les pays musulmans. Hein. Voilà. Alors, j'ai été à l'église d'Alger pour visiter. 9 personnes sur 10 baptisées ce jour-là se sont converties par la télévision. 9 sur 10. À l'église de Pantin, l'église kabyle, j'ai orienté moi-même plus de 10 personnes dans cette église à Paris. Et 3 sur 4 baptisés se sont convertis par la télévision. Vous savez pourquoi la télévision, la radio, les médias en général? Parce qu'on peut pas évangéliser comme on l'a fait hier, librement. Vous savez, en Algérie, il y a cette nouvelle loi qui dit « Quiconque tente d'ébranler la foi d'un musulman est passible de 3 ans de prison et d'une forte amende. » On ne peut pas donner un évangile à un musulman à l'intérieur de l'Algérie. Parce qu'ils savent que les musulmans sont en recherche de Dieu, et quand on leur donne un évangile, ils se convertissent. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, hein, nous on répète, il y a des gens qui disent qu'il y a 1 million de chrétiens évangéliques en Algérie. C'est extraordinaire. Voilà, cette femme préparait son suicide. Je l'ai rencontrée dans une église que j'ai visitée, elle m'a reconnue, elle m'a dit « Ah, j'ai vu ton témoignage à la télé, je suis venue au Seigneur par toi ». J'ai dit « Ça m'intéresse, racontez-moi votre témoignage ». Elle m'a dit « J'ai pris la télécommande, je cherchais, je connaissais pas votre chaîne, et quand je suis tombé dessus, tu as dit, le Seigneur Jésus a dit dans ses paroles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Et moi, je suis déjà chargé, je voulais mettre fin à ma vie. Et elle s'est approchée de sa télévision, elle a voulu me répondre. Elle m'a dit « Moi, je suis pas fatigué, mais je suis morte déjà, je veux mourir ». Et je lui ai répondu au travers de l'écran. Je lui ai dit, en tout cas, il n'y a que lui qui peut te donner le repos que tu cherches. Et là, d'un seul coup, tout est tombé par terre. Elle a senti la présence de Dieu, la paix de Dieu la remplir. Elle a couru voir son mari en criant, « Je suis guérie, je suis guérie !» Le Seigneur a touché son cœur. Elle était guérie instantanément. Et son mari a donné sa vie au Seigneur. Donc quand j'ai vu cette femme, c'était au moment où je pensais abandonner le ministère, arrêter, aller travailler ailleurs. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as montré tout ça pour continuer à te servir. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de continuer dans ce travail. Voilà, par exemple, je vous donne juste cet aperçu d'une chaîne de télévision avec qui on travaille. Ça s'appelle CNA, chaîne nord-africaine, elle existe aussi sur Internet. En 2015, on a reçu presque 22 000 appels téléphoniques de l'Algérie. Extraordinaire. Et sur ces 21 000, que des encouragements, que des gens qui demandent la Bible et des gens qui demandent la visite. On a visité 217 personnes qui se sont converties, qu'on a orientées dans des églises locales, pour vous dire qu'il y a du fruit, il y a du résultat. Donc en 2016, on a rencontré aussi 52 personnes. Ça, c'est que pour l'Algérie. Voilà. Donc, voilà. On peut aussi aller ensemble, hein, parce qu'on peut pas faire tout le travail tout seul. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Et nous devons agir ensemble. Et vous pouvez faire équipe avec nous en nous soutenant par la prière, financièrement, parce qu'on vit par les dons aussi. Voilà, merci.